Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le warm-up du Grand Prix de Chine, deuxième manche de la saison. Ça y est, hein, on est reparti tambour battant, j'ai envie de vous dire. Le warm-up de l'Australie la semaine dernière, le débrief du Grand Prix d'Australie qui est bien évidemment dispo encore sur toutes les plateformes de téléchargement qui est en train de cartonner. Et donc ce warm-up du Grand Prix de Chine, vous n'oubliez pas les 5 étoiles à chaque fois pour le podcast, c'est super important. Si vous aimez ces formats-là, je vous rappelle que le paddock RMC, c'est un épisode le jeudi, le warm-up, pour parler du week-end de course, pour tout savoir avant les courses, la course à suivre sur RMC le week-end bien évidemment avec Jean-Luc Roy et le débrief le lundi avec notre Jean-Luc Roy national, notre team principal, les AG du paddock du jour, Louis Gerbier et Baptiste Crossi. Salut les gars.
Salut Nico, salut tout le monde.
Est-ce qu'il est là le Baptiste? Ça y est, il a plus de voix, il fait comme Lando Norris, il essaie de se cacher là.
Ouais, je suis là.
Ah, tu fais comme Lando Norris toi, t'essaies de te cacher un peu, vivons cachés, vivons heureux quoi. C'est un peu la stratégie des McLaren quand même, j'ai l'impression. Hein Baptiste?
Ouais, exactement. Rendez-vous en Chine.
Baptiste Crossi, que vous pouvez retrouver, hein, il gère le compte McLaren France. Voilà, toutes les actus de McLaren. On va en parler d'ailleurs de McLaren, les gars. Baptiste, tu vas nous dire pourquoi McLaren est aussi fort. Est-ce que tu sens bien ton Lando? Est-ce que t'es pas inquiet non plus par cette gestion de pilote? On a vu que c'était un peu chaud avec Piastri aussi lors du Grand Prix d'Australie. Le programme, les gars, on va se pencher sur ce Grand Prix de Chine. Qui bon? Alors, c'est pas trop à quoi s'attendre. Première course sprint de l'année, circuit resurfacé, on va parler de tout ça. On va essayer de savoir si Isaac Hadjar peut se relever de son énorme erreur de la semaine dernière. Il a parlé, Isaac. Ça peut vraiment l'impacter peut-être pour la suite de sa saison. Et puis, Lewis Hamilton a réagi après ses échanges avec son ingénieur. Il trouve qu'on en fait trop, les gars. Il trouve qu'on a un peu exagéré, les médias. Voilà. Ça, c'est Lewis. Ça. Il a remis un petit peu le cadre... carré quoi, voilà, Lewis Hamilton, septuple champion du monde. Allez, c'est parti pour ce warm-up du Grand Prix de Chine. Avant de se plonger dans l'actu de cette course, on voulait revenir sur une info qui est tombée ce matin. L'annonce du décès d'Eddie Jordan à 76 ans, l'ancien mythique patron de Jordan Grand Prix, qui était arrivé en Formule 1 en 1991. Il avait communiqué l'année dernière, en fin d'année, qu'il souffrait d'un cancer assez agressif. On voulait en parler, Louis, parce que moi, Eddie Jordan, par exemple, du haut de mes 34 ans, les monoplaces jaunes que je prenais tout le temps à Formula 1 97, ça a rythmé ma jeunesse. Non, mais c'est vrai, c'est quand même le premier qui a laissé sa chance à Michael Schumacher en Formule 1. Voilà, c'est lui qui a fait rouler aussi Jean Alési à l'époque en Formule 3000. Enfin, c'était une écurie et un homme mythique du paddock, Eddie Jordan.
Ah bah clairement, Jean-Luc nous a confié sur ce fameux groupe WhatsApp qu'on nous envie tant, que c'était apparemment un homme aussi qui était très respecté dans le paddock et par ses pairs, et que c'était un grand homme qui disparaissait aujourd'hui. Je pense que pour les gens un peu plus vieux que nous, en effet, c'est une figure. Moi, c'est un peu moins une figure, mais comme toi, Nico, parce que je suis quand même plus jeune que toi, mais malheureusement, pas tant que ça. Pour moi aussi, c'est clairement la voiture jaune, tu vois. Là, c'est la voiture jaune, c'est Jordan, c'est clairement ça. Bon, alors évidemment, parfois ça a aussi été Renault, donc nous on y est sensible, mais c'est vrai que c'était comme ça qu'on les identifiait.
Ouais, mais c'est pas le même jaune, tu vois, c'est pas. Et puis Jordan Grand Prix, c'était jaune, quoi.
Ouais,
tu vois.
Ouais. Et puis, moi je me souviens aussi d'une époque où malheureusement pour eux, c'était Jordan, pour moi, c'était les voitures jaunes du fond de la grille. Et c'est un peu comme ça que ça s'est terminé, malheureusement. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, aujourd'hui, c'est Aston Martin.
C'est vrai, ça a été racheté par Midland, enfin, ça a été racheté
Midland,
par Force India,
qui a avant Racing Point par Lawrence Stroll, et donc Aston Martin aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc je ne sais pas du tout si Aston Martin prévoit un hommage particulier. Je pense que la FIA, globalement, rendra hommage ce week-end à Eddie Jordan. Et malheureusement, il part tôt, hein, 76 ans aujourd'hui, c'est une maladie et c'est triste.
C'était un homme qui était super présent encore dans le paddock, hein, il était consultant pour la BBC et tout ça. Meilleur résultat de Jordan Grand Prix, 3e place en 99 avec ce fameux pilote, Heinz-Harald Frentzen. Qu'est-ce que je le prenais, moi, à Formula 1 97. Je sais pas pourquoi, j'aimais bien un peu les no-names à l'époque, tu sais, les mecs que tu voyais pas trop. J'adorais Heinz-Harald Frentzen. Bon, on va se plonger, les gars, dans ce Grand Prix de Chine après l'annonce de cette info. Deuxième manche de la saison, on le disait. Baptiste, j'en parlais. À quoi tu t'attends, toi, ce week-end? Parce que la semaine dernière, on n'a pas eu trop d'infos globalement sur les monoplaces. On en parlait dans le débrief de lundi. C'était une course tellement particulière dans le chaos avec cette pluie de dingue que bon, on ne sait pas trop où en sont finalement les écuries. On attend la Chine pour ça. Sauf que Baptiste, bon, bah, c'est le premier week-end avec une course sprint. Et en plus, piste resurfacée. Donc ça peut quand même changer pas mal de choses. Hein.
Piste resurfacée, complètement refait. Et en plus, on a de la pluie peut-être en fin de Grand Prix. Donc là, ça s'annonce assez tendu. Pour le coup, j'aimerais voir les rythmes, le vrai rythme des monoplaces. Vasseur disait la semaine dernière qu'on verrait le vrai rythme de la Ferrari à partir des FP2. Côté qualification, on a quand même pu déjà voir les rythmes. Hein. C'était quand même sur piste sec. Voilà, c'était intéressant. On voit les grosses forces. Hein. On voit que McLaren évidemment est au top. On voit également que la Mercedes est pas si loin, que la Red Bull de Max Verstappen est aussi très bonne. Mais pour le coup, j'attends de voir ce qui va se passer en Chine. C'est justement hyper excitant. Mais format sprint, ça signifie quoi ? Ça signifie une séance d'essai. Donc tu te loupes sur tes réglages, même si tu peux les changer entre la sprint et la qualif prochaine, c'est compliqué. On va avoir une grosse séance, je pense, d'essais libres avec des rythmes assez soutenus. Ça sera à 4h du mat, si je dis pas de bêtises, en France. Donc
c'est ça.
Bon, va falloir se lever, se réveiller tôt. Je serai pas bien présent pour aller tweeter tout ça, mais ça va être tendu. Non, franchement, ça va être tendu. Mais surtout, la piste, elle est assez technique, en fait, en Chine.
Ouais.
Parce qu'elle est assez diverse. On est quand même sur une piste qui est assez équilibrée, qui va mélanger technique, qui va mélanger aéro, qui va mélanger aussi à la fois une forte utilisation du DRS et surtout une gestion des gommes très importante. On a vu que tu peux pas finir un tour à fond, c'est pas possible. Peut-être la McLaren, peut-être la.
D'ailleurs, Pirelli, ils amènent des pneus un peu particuliers, je crois, pour le. En plus avec le resurfaçage, ils amènent des gommes un peu spéciales. Hein.
C'était l'année dernière, je crois, oui, parce que de toute façon, l'année dernière, c'était le retour là-bas.
Ouais.
Où justement, c'était assez dingue de voir qu'il y avait une vraie stratégie de ceux qui allaient mettre la gomme. Voilà, pardonnez-moi pour l'expression. Dès le début et subir à la fin. Ou vice-versa, ceux qui faisaient un premier secteur un peu en dessous parce qu'ils savaient que la dernière épingle, il fallait pouvoir remettre les gaz très tôt et qu'il fallait qu'il en reste. Quoi. Et donc, c'est vrai que c'est toute une autre dimension qui peut même parfois paraître frustrante, que ce soit pour les pilotes ou les spectateurs, parce qu'un tour qualif, c'est dans le nom. C'est faut tout donner, faut tout envoyer. Tu voudrais envoyer de la ligne de départ à la ligne d'arrivée. Et là-bas, c'est pas possible, c'est quelque chose à prendre en compte et ça rend encore plus intéressante, je trouve, la séance de qualif.
Ça va être super intéressant ce week-end. Je vous ai pas donné le programme. Séance d'essais libres à partir de 4h30 du matin. En effet, les qualifs de la sprint race à 8h30. Course sprint samedi à 4h du mat. Les qualifications pour la course de 8 à 9h. Et la course dimanche à 8h. Faut se lever un petit peu moins tôt, les gars, que la semaine dernière en Australie. Bien évidemment, vous suivez tout ça sur RMC et sur rmc.fr. On en parlait un peu des particularités de ce tracé. J'ai l'impression que c'est une piste que les pilotes aiment bien. Malgré tout, dans tous les retours qu'il y a, c'est un Grand Prix un peu spécial. Et puis on parlait des conditions météo. Baptiste a dit un truc super important. Alors on va être au sec visiblement vendredi et samedi. Par contre, la pluie est attendue sur la fin de la course. 40% de chances qu'il pleuve encore. Ça peut changer pas mal de choses avec une vraie baisse des températures aussi attendue pour le dimanche. Hein.
C'est une piste pour le coup qui est hyper appréciée parce qu'elle est assez complète en fait. Ça permet tout simplement de voir toutes les caractéristiques de la monoplace. C'est un peu, ça ressemble un petit peu à l'Espagne. C'est un petit peu les mêmes caractéristiques que l'Espagne, qui est souvent révélateur de l'ensemble des forces en milieu de saison. Piste sur laquelle, justement, en fin de course, ça va être détrempé. Donc là, ça va être assez complexe. Il va falloir avoir une très bonne stratégie pour l'ensemble des pilotes et surtout être dans l'anticipation, comme l'avaient fait Max Verstappen et Lando Norris en discussion avec leurs ingénieurs durant l'Australie. Piste intéressante. Pour le coup, j'attendrai de voir ce qui se passe après les qualifications sprint et les changements de réglages. Moi, j'avoue, la sprint, ça m'emmerde. Je le dis clairement, de ne pas avoir 3 séances d'essai libres, de ne pas pouvoir toucher au réglage sur temps de début de saison, c'est quelque chose de plutôt frustrant lorsqu'on veut comprendre les forces de la monoplace. Bon, voilà, il y a cette sprint. J'espère qu'on n'en verra pas d'autres. Tout parce que j'avais une rumeur sur le fait que les sprints allaient revenir assez souvent et plus de 7 fois. lors de cette pas après
ouais,
la saison prochaine.
Ils veulent le faire. Enfin, c'est ce qui se dit en tout cas. C'est ce qui se dit. Mais c'est vrai que c'est un peu étrange de voir apparaître Louis une course sprint si tôt en fait. Parce que t'as quand même besoin de développer la monoplace. T'as besoin aussi que les mecs. Il y a eu tellement peu de temps de roulage là sur cette intersaison que leur faire ça aux voitures. Alors oui, ça rajoute du suspense. Et pour nous, ça va peut-être être sympa parce que tu vas avoir peut-être encore un week-end de zinzin avec des rebondissements, avec des voitures qui arrivent à tirer leur épingle du jeu dans des conditions un peu spéciales. Mais bon, pour les équipes qui bossent, qui ont des ambitions, ça peut être un vrai frein.
Ouais, ouais, bah, ça va avantager ceux qui sont bien, hein, parce que du coup, bah, ils vont être bien. Et ceux qui sont moins bien, ouais, c'est, après, tu commences ton premier grand prix, sous la pluie. Et dès le deuxième, tu peux pas trop rouler en essai à cause du sprint. Donc c'est vrai que ça fait un début de saison léger pour rattraper le retard. Je pense à Haas, qui a quand même pas loin de 2 secondes à rattraper. C'est pas tout de suite qu'ils vont pouvoir le faire du coup. Bon, après le sprint, je suis un peu moins sévère que Baptiste, mais je suis pas un grand fan non plus. Le côté fan de F1 fait que t'es content d'avoir une course dès le samedi, et en même temps parfois ça ressemble quand même rapidement à une procession parce que faut faire attention parce qu'il y a demain, faut garder la voiture pour demain. Ça fait quoi, ça fait 2 ans maintenant qu'on en a?
Presque 3.
Ouais, 3, j'allais dire quasiment 3.
Ça fait 3.
Tu vois, je suis toujours dubitatif. Ni pour ni contre, bien au contraire. Tu vois, je ne sais pas trop quoi en penser.
En fait, moi, je trouve ça d'un côté. Enfin, si tu prends le côté purement spectateur, bien sûr, voir une course en plus, c'est quand même cool. Voilà. Tu vois des bagarres et tout ça. Mais quand tu es un vrai ingénieur, que tu aimes la technique, que tu aimes la bagnole comme Baptiste, je comprends que ce soit frustrant parce que les mecs peuvent pas bosser, tu vois pas les améliorations tout au long du week-end et ça, c'est le truc.
Moi j'en vois pas l'intérêt. Clairement j'en vois pas l'intérêt parce qu'en fait comme tu l'as dit Louis, c'est une procession en fait sur lequel on connaît les rythmes. On sait déjà à l'avance quels sont les rythmes du dimanche. Ok, il y a pas d'arrêt, il y a pas de pit stop, mais tu vois à peu près les rythmes, la dégradation. Donc en fait ça te fausse. Si tu vas regarder l'ensemble de data, ça te fausse complètement le.
T'as un spoil limite pour ce qui va se passer le lendemain si la course est régulière le lendemain quoi. Donc
très clairement pour aller récupérer quelques petits points.
Bon les gars, on va parler de notre français, Frenchie.
En moto, c'est sympa. En moto, c'est sympa les sprints parce que comme t'es moins sur un développement total tout le temps, et que ça te fait juste tout simplement 2 fois plus de courses. Et comme c'est toujours très sympa une course de moto, souvent elles font 10-12 tours. Du coup, celle de sprint, ça se regarde en 20 minutes, tu vois. C'est pas mal, mais c'est pas pour autant qu'il faut du coup le généraliser en F1.
Tout à fait, je suis d'accord que le format est plus MotoGP compatible largement que F1 compatible. Les gars, parlons de notre Frenchie, Isaac Hadjar. On a parlé en long, en large, en travers, après cette incroyable erreur. Isaac qui faisait un bon week-end avant de jeter la voiture dans le mur en tour de formation. On va l'écouter, Isaac Hadjar. Il est revenu, il était en conférence de presse, il est revenu sur cet événement et surtout sur les déclats d'Helmut Marko, qui a dit que quand il l'a vu pleurer et tout ça, il avait trouvé très embarrassant. Bien évidemment, les journalistes dans le paddock là l'ont fait réagir au micro de Sky Sport. Écoutez-le.
I found it embarrassing myself.
And you know, moi-même, j'ai trouvé ça embarrassant, ces larmes. Mais j'ai eu Helmut au téléphone un jour plus tard. Je le connais depuis quelques années.
I know how he works and
Et puis franchement, il y avait un autre point aussi, c'est je crois qu'il parlait en allemand, donc ça a été traité différemment, on n'a pas vu son langage corporel, j'ai pas vu les images non plus, donc je peux pas dire grand-chose de plus. À part ça, j'ai vu tout l'amour des fans, des gens, et je m'attendais pas du tout à ça quand j'ai jeté la voiture dans le mur, donc c'était vraiment très cool. Bon voilà, il fait de la politique, Isaac Hadjar, il va pas démonter Helmut Marko, mais déjà il se cache pas. Non mais déjà première info, les gars, il se cache pas. Bon, il est envoyé en conférence de presse, il répond, et quand on voit cette conférence de presse là. Il est détendu, il ne semble pas sous pression, il n'est pas inhibé par les questions des journalistes qui ont toutes tourné autour de ça. Et ça, c'est important, Louis.
Ah bah, c'est très important et je pense surtout que le, tu vois, il le dit à la fin là, le, cette espèce de réaction du public et même du paddock en fait, tout en empathie, ce qui est quand même assez rare dans le milieu de la Formule 1, a dû aussi lui donner beaucoup de baume au cœur, comme il le dit, mais aussi justement lui permettre de faire cette conférence de presse finalement assez détendue, puisque il s'attendait à ce qu'on parle du sujet et c'était sûrement complètement bien préparé avec les AP de l'écurie. Mais il pouvait aussi s'attendre à que ça soit assez bienveillant et voilà, avec le moins bienveillant. Parce qu'en fait, elle est un peu servie sur un plateau aussi, elle n'est pas très agressive la question.
Oui,
tu peux vouloir lui parler de la phrase de Marco en étant beaucoup plus piquant que ça, si tu veux. Parce que même dans la manière dont le journaliste la pose, on sent qu'il veut lui donner l'occasion.
Il y a de la rondeur,
voilà.
Oui.
Il veut lui donner l'occasion d'avoir la parole sur le sujet et de mettre un terme au truc. Isaac, réponse très politique, il peut évidemment rien dire de plus. En même temps, il est très intelligent sur le côté genre. Ce qui est malin aussi, tu sais, bah, du style, moi j'ai pas vu les images en fait. Enfin, qu'est-ce qu'il vous dit qu'en gros qu'il rigolait pas ou qu'il avait pas le sourire aux lèvres, ou enfin peut-être pas, tu vois, mais qu'en gros il était pas en train d'assassiner Isaac. Donc non, bravo. Voilà, il en est toujours qu'à une erreur cette année, Isaac. C'était ce tête à queue. Sinon, tout le reste est parfait. Donc c'est ce qui rend encore plus dommage.
Mais les gars, oui, mais les gars, moi je vous pose la question, est-ce que ça peut flinguer sa carrière en F1?
Oh, bah alors, non.
Non, mais la question, elle peut se poser, les mecs. Elle peut se poser, la question.
La question, elle peut se poser pour moi, dans le sens où il est chez Racing Bull, c'est marche ou crève pour aller chez Red Bull. C'est la seule chose sur laquelle on va voir comment il va rebondir en Chine. On verra comment ça se passe, mais pour le coup, j'ai pas d'inquiétude sur Isaac. Isaac, c'est quelqu'un d'assez nature. On l'a vu en F2, on l'a vu en F3 quand il était chez Compos, notamment l'an dernier. C'est quelqu'un qui est très agressif à la radio, un peu comme Yuki Tsunoda, qui est assez nerveux, mais c'est quelqu'un de très nature et quelqu'un qui n'hésite pas à se remettre en question, qui est sans filtre, qui a pas peur en fait de pas cacher, enfin il ne cache pas ses émotions en fait, tout simplement. Et puis il est dans la filière Red Bull depuis des années, donc il sait ce que c'est d'être sous Helmut Marko. Ça fait des années, d'ailleurs il le dit dans l'interview, ça fait des années que je connais Helmut. Il le dit aussi, hein, que Helmut il parle en allemand, que c'est peut-être un langage qui est différent, etc. Bon, c'est une manière politique de dire que en gros c'est bien Helmut, tu t'es plaint de moi, etc. Mais je squeeze et tu verras en Chine ce sur quoi je vais répondre. Voilà, après il est en face d'un coéquipier qui a de l'expérience, qui est Yuki Tsunoda, qui pour moi aurait mérité d'aller chez Red Bull plus que Lawson, mais bon, on en fera un autre débat à un autre moment. Pour le coup, Isaac c'est quelqu'un qui va performer, qui va rebondir. Moi j'ai confiance en lui, pas le fait qu'il soit français, ça j'en ai rien à faire d'un point de vue objectif, mais il va répondre aux attentes pour moi. C'est un pilote qui est très agressif sur la piste. En essai libre, il était monstrueux. Et franchement, il a fait des essais. Moi, j'ai écouté toutes ses radios avec son ingé. Puis c'était très, très impressionnant pour un début. En qualif, il a quand même été bon. Il se place 11e. Enfin, il fait une Q2. Il n'est pas très loin de la Q3.
Ouais,
voilà, il fait une erreur sous la pluie. Mais qui n'a pas fait d'erreur? Alonso a fait des erreurs. Sainz a fait des erreurs. Voilà, comment lui reprocher de mettre un coup de gaz en tour de formation sous la pluie dans ces conditions pour une première course en F1, vu tout le stress? On va pas lui reprocher, on va pas lui tirer la pierre pour le coup.
Non, mais nous non, bien évidemment, les observateurs je pense que non, mais c'est un milieu qui est tellement impitoyable et on le sait que forcément cette étiquette de premier Grand Prix, t'as acheté la bagnole avant le départ de la course. Bah, ça va lui coller à la peau.
Ouais,
et Jean-Luc nous le disait lundi aussi.
Jean-Luc le disait, c'est qu'on lui en reparlera toute sa vie, quelle que soit sa carrière. Mais en revanche, ça va lui coller à la peau, oui. Mais après, ça peut être, ça peut être insignifiant aussi dans sa carrière. Même si on lui en reparle à la fin, peut-être qu'on lui en reparlera en disant ah bah, t'as vu, avec tes 9 titres de champion du monde, t'en rigoles aujourd'hui.
Toujours plus, le gars.
Oui. Je suis désolé, mais on parle pas de Max Verstappen qui a craché un nombre de voitures quand il était chez Toro Rosso au tout début.
Ouais, c'était une pipe, pas. Verstappen, de toute façon, j'ai toujours dit.
Non, mais c'est vrai. Non, mais après, c'est vrai que quand tu te mets à gagner, on oublie tout ça. Et si ça se trouve, dans 3 courses, c'est en plus maintenant, je pense que les gens oublient très vite. Donc, ça se trouve, on aura tous oublié.
Non, mais le vrai truc, c'est qu'il a grillé un joker, un gros joker. Il a plus de joker, là, on est d'accord.
Je suis pas d'accord. Pour moi, c'était une course atypique sur laquelle beaucoup de pilotes, beaucoup de rookies se sont crash. Donc, pour le coup, on va lui laisser encore 5-6 grands prix avant de faire.
Ah oui, mais il faut pas. La carte joker, sortie bête, pour pas dire plus. Il l'a brûlé quand même, parce que là, va pas falloir refaire des... Comme... Après, la chance qu'il a, c'est qu'il est peut-être pas dans la période de la formation Red Bull où il y a le plus de génies qui tapent à la porte derrière lui.
Mais... Oui, il n'y en a qu'un seul, qui est Harvey Linbold, qui est en F2. Ouais. C'est le seul qui peut potentiellement venir taper à la porte, mais sur le reste, je ne vois pas.
Mais en tout cas, pour parler de la filière Red Bull, moi, aujourd'hui, je pense que Lawson est déjà plus en danger qu'Adjar, tu vois.
Ah bah, vu la première... Mais surtout que Lawson n'est pas un rookie. Enfin,
il a 11 Grand Prix, maintenant 12 derrière lui. Il a quand même une voiture qui fait podium, même si elle le fait avec un génie dedans. Puisque pour les premiers degrés, c'était une blague, Verstappen. Donc, attention à Lawson, parce que voilà, c'est pareil, c'est Helmut Marko et il n'y a pas le temps.
Surtout quand tu vois les pertes de Tsunoda, ça c'est le fameux débat dont on parlait avec Baptiste, et Jean-Luc n'a pas arrêté de nous le dire, pour lui il n'y avait pas match entre Lawson et Tsunoda, et quand tu vois le week-end de Tsunoda et celui de Lawson à côté, tu te dis que bon...
Et s'ils avaient écouté le paddock l'année dernière, ils auraient pris
Tsunoda. Mais oui, mais il faut qu'on leur envoie le lien. Je vais lui envoyer à Christian Horner. Ben
voilà.
J'ai chopé son plus 34 machin et on va le faire. Tiens, on parlait du soutien du paddock, les gars, pour Adjar. On se souvient la semaine dernière d'Anthony Hamilton, le papa de Lewis, qui avait été très présent pour essayer de le soutenir. Il a eu aussi le réconfort de son idole, Lewis Hamilton, avec qui il avait échangé avant l'Australie. Ils avaient fait un petit selfie tous les deux très sympa. Hamilton est allé le voir en lui disant « c'est ta première course, c'est ma première course chez Ferrari, viens, on fait un selfie ». Et ils sont appelés après ce Grand Prix d'Australie. Écoutez Lewis Hamilton, c'est au micro de nos confrères de Canal. Je sais ce que c'est que de faire son premier Grand Prix avec toute la pression qui va avec. Franchement, il n'y avait pas de pire condition pour une première. Je sais ce que ça fait. C'est un sentiment vraiment horrible. D'abord envers soi-même, on s'est tellement préparé, entraîné pour ça. Et puis il se passe ça. Puis il regarde les autres ensuite. Toute la négativité qui arrive. Et je me rappelle de comment c'était au début et je voulais être là le plus possible pour Isaac. Ma porte est toujours ouverte, on pourra toujours discuter ensemble. Parce qu'une course, ça te définit pas et il a plein d'opportunités devant lui pour garder la tête haute. Voilà les mots de Lewis Hamilton pour Isaac Adjar. Franchement, c'est classe.
Mais ça montre aussi sûrement que, comme Baptiste, Hamilton a sûrement regardé un peu les essais, les chiffres d'Isaac. Et a vu. Et je pense qu'en fait, t'as aussi, c'est comme quand Antonelli s'est foutu en l'air. Pareil, tout de suite, Toto l'a protégé et tout. Parce qu'en fait, quand... C'est pas là-dessus que tu c'est avant que tu vois si c'est un crack ou pas. Et du coup, quand un crack fait ça, tu vas plus le protéger qu'un moyen, parce que le moyen, en fait, finalement, il y en a tellement qui attendent que ça pour le détruire parce qu'ils savent qu'il est moyen, alors que là, comme tu sais que normalement c'est un crack, tu te dis bon, on va pas le brûler, le gamin, parce que ça reste un gamin, donc mettre plus de rondeur dans le truc. Allez, on va remonter en selle. Quand on tombe, faut remonter à cheval. Et puis voilà quoi. Donc il y a parfois des discours différents selon le talent du rookie aussi. C'est marrant à observer.
C'est ça. En tout cas, obligé. T'es obligé. T'as pas le choix pour moi sur ce genre de petits talents, de petits cracks comme tu le dis, puisque on le voit. Si tu donnes pas un minimum de confiance au début, ça va faire exactement comme une Jack Doohan, c'est-à-dire que tu vas te retrouver avec sous pression dès le premier Grand Prix. Donc là, on voit un Jack Doohan qui est complètement sous pression quand il est en conférence de presse, il est apathique, il est en difficulté, ça se sent et ça se sent que Colapinto est juste derrière en fait pour lui taper dessus dès qu'il va faire une erreur. Donc là, il reste à Doohan 3 courses, à Adjar il en reste au moins 7 ou 8. Sur lequel voilà, il a moins de pression, sur lequel on sait que c'est un talent brut. Il y a juste à comparer l'ensemble de ces data. Hein. Elles étaient meilleures que Lawson dans la Red Bull. Hein. Et je crois pas que la Red Bull soit moins bonne que la... Maintenant, je sais plus, AlphaTauri, Red Bull,
RB. Parlons de McLaren maintenant, les gars. Lando Norris était également en conférence de presse. Lando Norris qui a maîtrisé son week-end, en tout cas qui montre que McLaren est fort. Baptiste, bien sûr, connaît McLaren sur le bout des doigts, celui-là. Donc, on va lui poser des questions sur McLaren. Comment t'expliques un peu cette domination de la McLaren et comment t'as trouvé aussi la gestion de la course de Norris, son approche aussi de ce deuxième week-end? On sent que, voilà, on en avait parlé tous les trois, je crois. On avait fait un paddock il y a 3 semaines, on était tous les trois ensemble. Tu nous disais que tu sentais qu'il avait vraiment passé un cap aussi, qu'il avait appris en 2024. Ça s'est ressenti la semaine dernière. Pour toi, comment t'expliques un peu les forces de McLaren ?
Les forces de McLaren, elles se résument en 3 hommes clés, j'aurais dit. Un, c'est Andrea Stella, team principal de chez McLaren, qui a permis de restabiliser tout l'organe à la fois politique et à la fois sportif. Donc, a confié les clés du camion à 2 personnes. Donc, dans son département, le département aéro, qui est Peter Prodromou, qui est vraiment celui qui a permis de développer le potentiel, donc à l'époque, de la MCL 37, de la MCL 38 et 39, avec vraiment une plateforme de développement hyper impressionnante au niveau aéro. Et un deuxième homme qui est clé, selon moi, qu'on est venu chercher chez Red Bull, qui est Rob Marshall, qui lui apporte énormément d'innovations techniques sur lesquelles on voit le mini DRS avec l'aileron arrière flexible. Maintenant, on le voit sur les freins. On n'a pas assez parlé, en fait, de la gestion de gomme des McLaren. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur Twitter ou sur d'autres plateformes. La gestion des gommes des McLaren était hyper impressionnante, sur lesquelles il n'y a eu presque aucune dégradation. Et c'est notamment le rôle des freins, en fait, qu'on joue un rôle clé sur ça. Et il y a un troisième homme clé pour moi, qui est notamment Zach Brown, en fait. Zach Brown qui est sorti de l'organe sportif, qui a confié à Stella l'ensemble des clés en lui donnant le recrutement, lui permettant justement d'aller choisir ses différents hommes. Et lui s'occupe plus de la partie commerciale et sponsor. Et c'est pas anodin, c'est la première année l'an dernier que McLaren est en positif depuis au moins plus de 10 ans au niveau commercial. Et c'était pas anodin parce qu'en fait il a permis, il a restructuré l'ensemble de ceci, notamment en investissement sur une nouvelle soufflerie qui est apparue à la mi-2023. Et ça a permis une meilleure corrélation entre la piste et la soufflerie. Et puis il y a une paire de pilotes en fait qui se connaissent. Ça fait plus de 3 ans qu'ils évoluent ensemble. Lando, c'est un pilote McLaren, du programme de développement McLaren depuis X années. Il est arrivé en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait plus de 6 ans qu'il conduit les McLaren. Donc c'est quelqu'un qui a confiance, qui connaît les forces, les faiblesses de l'écurie. Et ça c'est quelque chose qui est hyper clé. Comme je l'avais dit précédemment il y a 3 semaines, en fait, c'est une évolution de Lando Norris. On n'a plus le même Lando Norris. Je rappelle qu'il a quand même gagné Abu Dhabi 2024. Il gagne l'Australie. Ça fait 2 courses d'affilée qu'il remporte. C'est la première fois.
Et là, t'as senti après l'Australie qu'il avait vraiment franchi un cap?
Il a franchi un cap, c'est clair. Pour moi, il s'est totalement remis en question cet hiver. J'ai eu quelques insights sur le fait qu'il s'est vraiment, il est parti à l'étranger, il s'est vraiment fait une remise à zéro, un petit peu comme avait fait Rosberg entre 2015 et 2016. C'est vraiment, apprendre à gérer son stress, apprendre à gérer la pression et surtout être agressif, être un pilote agressif. Ce n'est pas un pilote agressif à la base. C'est quelqu'un qui est assez doux sur la piste, qui veut pas en fait faire du mal. C'est pas un pilote comme Max Verstappen qui est ultra agressif sur la piste et qui est un petit peu un chien. C'est pas du tout ça. C'est pas sa mentalité, mais il a pas le choix d'apprendre puisqu'il évolue aux côtés et surtout il affronte un Max Verstappen qui est monstrueux avec une monoplace qui est moins bonne que la sienne, donc il va la pousser jusqu'au bout, là, Max Verstappen, donc il n'a pas le choix en fait de se mettre dans ce mindset là. Après attention parce qu'il va franchir ce cap et je pense qu'il sera monstrueux cette année, mais faudra aussi voir s'il est capable vraiment, ou quand la Red Bull reviendra au niveau, d'être à son niveau, d'être aussi agressif, et c'est là où on verra si vraiment il a définitivement évolué et c'est un championship material.
Ça va être sympa. Tiens, on va l'écouter, Lando Norris, au micro de Skateboard pendant sa conférence de presse. Vous allez. Alors, la question du journaliste, c'est. Ils sont un peu tatillons quand même. Ils disent, Lando, bon, t'as gagné la première course. Est-ce que du coup, maintenant, t'as une vraie pression sur tes épaules pour assumer ce statut?
Non. Je
l'ai dit dans des interviews. Il n'y a aucune différence pour moi aujourd'hui. Je ne fais même pas attention à tout ça. Ça change strictement rien pour moi. Ça ne change rien à ce que l'équipe doit faire. J'ai eu un bon week-end d'un seul. Les gens doivent se calmer un peu. Je reste focus et je vais essayer de reproduire ce qu'on a fait bien la semaine dernière. Et je ne penserai pas au championnat ou au classement avant la mi-saison. Voilà, c'était clair. Et encore, je voulais monter un peu plus cut, comme on dit, Louis, parce qu'il met un blanc après le non, là, quand on lui pose la question sur la pression. Non, il y a 5-7 secondes de blanc où il regarde le journaliste dans les yeux, tu vois. Mmh. Tu sens que ça commence à le chauffer un petit peu, ces questions sur la pression. Est-ce que tu es capable de tenir ça? Est-ce que tu vas l'assumer? Tu sens qu'il aimerait bien quand même qu'on bascule sur autre chose, Lando Norris.
Ouais, toi, quand tu as traduit, là, tu as traduit son no par non. Moi, j'aurais traduit ça par oui. Parce que c'est vraiment un nom qui veut dire oui. Tu le sens un peu dans la manière, tu vois, il était un peu agressif de répondre. Je pense mais je pense que c'est pas une tare en fait. C'est normal d'avoir la pression quand tu veux être, enfin quand quand même une carrière de pilote de F1. Enfin, il y en a des génies, il y en a des génies qui pourraient être champions du monde s'ils avaient eu peut-être été là au bon moment, au bon endroit ou des choses comme
oui,
ça.
Oui, mais tu vois, je pense qu'il parle de pression négative. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, non,
de
mais justement, c'est là où j'en venais, c'est-à-dire que la pression, il y en a maintenant. Maintenant, il faut la gérer, mais il est. Quand il dit « j'ai pas de pression », en fait, il se ment à lui-même, parce qu'il y en a de la pression maintenant, c'est comment tu la gères, quoi. Comment tu la gères, tu es dans la meilleure voiture, tu as pris de l'avance sur ton coéquipier, donc aujourd'hui, le favori pour le championnat. Ce sera peut-être pas le cas dans quelques courses, mais maintenant, c'est à lui de gérer cette pression et de montrer ce que Baptiste pense, et je veux bien le croire aussi, qu'il a passé un cap, et que cette année, il en est capable. Après, il ne faut peut-être pas tout confondre sur l'aspect où, maintenant que la Red Bull est un peu moins bonne, bah, c'est plus facile d'être devant Max, tu vois ce que je veux dire ? Donc, ouais. Est-ce que c'est la Red Bull qui baisse qui fait que Norris est devant, ou est-ce que c'est qu'il a vraiment passé un cap ? Il y a peut-être un petit peu des deux. Mais bien quand sûr. Même, je pense qu'il a clairement... une solidité supérieure à l'année dernière et ça va l'aider très fortement cette année. Ah,
je ne suis pas d'accord sur ça. Pour le coup, Lando, on le voit sur l'Australie, que ce soit en essai libre ou en qualification, il a été monstrueux, il n'a fait quasiment aucune erreur. Ça, on le sent qu'il est beaucoup plus consistant, beaucoup plus régulier. Ça fait que c'est qu'une course, oui, mais ça se sent déjà comparé à l'an dernier. C'était la première année l'an dernier quand même qu'il pouvait commencer à jouer des titres. Il pouvait jouer le titre en fait, mais il jouait des victoires. Il sait que depuis Miami qu'il peut le faire. Il a 5 saisons en F1, il ne peut rien jouer. Ou juste, il apprend à développer la monoplace. Là, je le sens très confiant. Et pour le coup, pour avoir eu quelques discussions avec quelques membres de McLaren, il est dans sa bulle. Il est clairement dans sa bulle. En fait, quand il répond non, je suis d'accord avec toi, Louis. C'est un oui. Mais en fait, il s'est créé une bulle autour de ça où il est même plus sur les réseaux sociaux. Il refuse d'aller sur les réseaux sociaux. Il se crée sa propre bulle avec sa propre équipe sur laquelle il ne veut rien entendre sur quoi que ce soit. Même de la part d'Oscar Piastri, sur la pression de son coéquipier, etc., il est vraiment concentré et focus sur le championnat du monde. Il le dit en off que clairement il en a envie, il le veut, ce championnat, et c'est cette année ou jamais, parce qu'avec les nouvelles réglementations, voilà, ce sera compliqué.
C'est ça aussi, hein, c'est que dans une carrière, ce qui ajoute encore plus de pression, c'est que t'as souvent aussi qu'une chance, ou presque, de le faire, quoi. Donc il faut transformer l'essai, et c'est toute la mission compliquée qu'il a à faire. Et comme j'ai dit dans les pronos, hein, moi je pense qu'il va le faire, mais maintenant il faut le faire.
On va peut-être se retirer des réseaux sociaux aussi, nous, pour rester dans notre bulle avant les podcasts et tout. On va peut-être faire ça. Ça peut marcher. Revenons un peu sur Ferrari aussi pour terminer ce podcast, les gars. Déjà, qu'est-ce qu'on attend de Ferrari là, pour ce week-end en Chine, Louis ? Parce qu'en termes de perf, on a compris que c'était un peu compliqué sur ce début de saison. Même si Fred Vasseur a dit « bon, c'était pas le vrai Ferrari », Andrea Stella a dit la même chose après l'Australie. On n'a pas vu la vraie Ferrari ce week-end. Malgré tout, qu'est-ce qu'on attend de Ferrari pour ce Grand Prix de Chine ? Et puis on va revenir après sur Lewis Hamilton qui s'est exprimé. C'est un peu agacé parce qu'on a parlé de ses échanges avec son ingénieur, ça l'a un peu saoulé. Mais première question, Louis, ouais, qu'est-ce que t'attends de Ferrari là ?
Bah un vrai rebond, parce que ça a surpris un peu tout le monde, même en interne, quoi. Il y a eu de la surprise chez Ferrari ce week-end, dans le mauvais sens malheureusement. Donc un vrai rebond par rapport à leur discours de début de saison et leurs ambitions, ça voudrait dire que t'as au moins une voiture sur le podium, mais vraiment au moins, quoi. C'est-à-dire à l'autre, elle est 4 ou 5 au pire, quoi. Tu vois, c'est ça pour moi que j'attends.
Faut faire un gros week-end, faut prendre beaucoup de points.
Et puis bon, comment dire, ça s'est très solidifié depuis l'arrivée de Fred Vasseur, un peu sur tout ce qui est stratégie, sur tout ce qui est communication. Et là, on a vu un peu un pas en arrière la semaine dernière, avec la réapparition de fantômes du passé où c'était la cacophonie, et même un peu parfois complètement ubuesque avec l'ingénieur qui dit « bah, ça doit être de l'eau ». Tu dis « bah ouais, en fait, merci ». Donc là, moi, je veux surtout ne pas revoir ça. Il manquerait plus qu'ils nous refassent un pit stop raté comme ils étaient spécialistes à l'ère Binotto. Donc voilà, il ne faut surtout pas retomber dans ces travers parce que ça n'a pas bien commencé. Un rebond, et puis après, on oublie et puis on construit la saison. Parce que je pense qu'ils ne sont pas si loin. Ils ont quand même des feuilles d'étang dans les essais qui sont fait correctes. Hein, donc il y a peut-être aussi un peu les caractéristiques du circuit. Mais le problème, c'est qu'habituellement, dans les dernières années, c'était plutôt un circuit pour eux là-bas, à Melbourne. Ouais. Donc,
Oui, mais Leclerc a dit qu'ils ont dû rehausser le plancher, donc ce qui leur a apporté moins de performance, notamment entre les essais libres et la qualification. Donc c'est ce qui leur a coûté parce qu'ils avaient peur de plus être dans la légalité avec le plancher.
C'est laquelle qui a collé au sol là où on voyait
Antonelli.
Ouais, elle est folle l'image. Peut-être à l'impression qu'il y a un champ magnétique dessous qui la tracte et qu'elle est vraiment collée comme une attraction.
Il y avait un truc de cassé. Elle était trop basse, la monoplace. Ouais. Tiens, je vous lis les petites déclats d'Hamilton quand même. Quand on lui dit Lewis, alors les échanges avec Ricardo Adami, ton ingénieur, comment ça s'est passé? Il dit je lui ai dit laisse-moi faire s'il te plaît. Je lui ai pas dit va te faire foutre. Il dit à aucun moment j'ai insulté. À ce moment-là, j'avais vraiment du mal avec la voiture et j'avais besoin de me concentrer sur certaines choses. Il dit nous apprenons à nous connaître. Mais il n'y a aucun problème entre nous. Et il dit les médias en ont trop fait quoi. Il revient aussi sur les conversations de Verstappen. Il dit les conversations que Max a eues avec son ingénieur au fil des ans, la violence que subit ce pauvre bougre, vous n'en parlez jamais. Mais vous avez rapporté la moindre petite discussion que j'ai eue avec le mien. Ah, il est bon, Lewis. Quand même.
Ouais. C'est bien. Mais de toute façon, il fait contre-feu. Hop, comme ça on va peut-être se mettre à dire c'est vrai que Lampiadze quand même faudrait peut-être faire une cagnotte litchi pour son psychiatre tout ça fausse polémique. En revanche, naïveté de la part d'Hamilton de se dire que quand même Hamilton, tu viens d'arriver chez Ferrari et tu t'étonnes que tout soit scruté à la loupe. Ouais,
il le sait, mais il sort un peu du bois, voilà, pour montrer qu'il est là, il protège son ingénieur, il défend son écurie.
J'en fais pas cas de cette affaire. Fait de course. Moi, de toute façon, ce qui se passe dans la radio, à moins de vraiment un ton ou une insulte, on en avait déjà parlé. Les mecs, ils sont à 250 dans les virages. Il y a des voitures autour. Il y a de l'adrénaline, il y a de la tension, il y a de la pression. Ça arrive à tout le monde de se parler un peu chaud dans un moment chaud, voilà. Et puis après, en deux minutes, à la fin, une fois que la tension est redescendue, ça se tape dans la main parce qu'en fait, chacun sait que l'autre était sous pression et qu'il n'y a pas à le prendre comme si tu te lèves d'un coup de table dans un moment et que tu pètes un plomb. Pour moi, ce n'est pas du tout la même dimension. C'est pour ça que j'en fais jamais vraiment cas. Parce que faut passer à autre chose.
Surtout que c'était leur première, en fait, tout simplement.
Mais ensemble. Il y a un moment...
Après, tu es dans un mariage hyper médiatisé. Hein. T'as Lewis Hamilton, le pilote le plus médiatique. Bah, et t'as exactement. Ferrari qui est hyper médiatisé aussi. Donc tout va être scruté, tout va être polémique. Surtout en Italie, on connaît les médias italiens. Donc ça va bouillir et ça va être chaud pour lui au niveau des polémiques. Mais lorsqu'il performera, il n'y aura plus aucune polémique et ça ira. Après, il faut aussi se souvenir qu'il était avec Peter Bonington, qui est son ancien ingénieur chez Mercedes, qui est maintenant sous Andrea Kimi Antonelli. Il faut aussi comprendre, voir les différents process. On passe aussi d'une culture anglophone à une culture aussi latine. C'est pas la même chose de travailler en Angleterre que de travailler en Italie. C'est pas les mêmes processus. On n'est pas sur les mêmes mécanismes. Et en termes de communication, on sait que les latins, aiment beaucoup s'exprimer, etc. Côté britannique, c'est moins le cas. Surtout côté Peter Bonington et Lewis Hamilton, ils avaient l'habitude de plutôt fonctionner avec des codes. Ils savaient très bien, ça marchait très bien. C'était une usine qui roulait parfaitement. Là, c'est différent. C'est pas la même chose. Et c'est quand même un ingénieur qui a quand même eu Vettel, qui a eu Carlos Sainz aussi précédemment. Donc il faut juste laisser du temps. Je pense qu'il faut se laisser 2-3 courses de réglage le temps que tout se peaufine et puis on verra où ça en est. Après, faut aussi souligner que la Ferrari n'était pas très bonne aussi ce week-end. Donc peut-être que ça les a mis sous tension et donc causé manque de communication.
Tu penses qu'en Chine, là, ça peut aller mieux, Baptiste ?
Ça ira forcément mieux parce que tu peux pas faire pire que l'Australie en termes de résultats au vu de Ferrari, ce qu'ils ont développé durant l'hiver et ce qu'ils avaient attendu. Après, je les attends pas devant McLaren, je les attends pas au niveau de McLaren, je les attends au niveau de Mercedes. Maximum, ouais. Vraiment maximum, si je veux être gentil.
Ouais.
Tiens, on va partir un peu sur vos pronos du jour. Je vous ai pas donné les résultats du Grand Prix de Chine de l'année dernière. C'est Max Verstappen qui s'était imposé devant Lando Norris. Sergio Perez était monté sur le podium. Checo, il semble très très loin ce podium de Checo Perez. Charles Leclerc était quatrième devant son coéquipier Carlos Sainz. Les gars, là, avec ce qu'on sait actuellement, bien évidemment, on rappelle, on enregistre ce podcast le jeudi, on n'a aucune information, on n'a pas eu de séance d'essai. Comment vous voyez ce Grand Prix de Chine, Baptiste ?
Victor de Lando Norris, deuxième Max Verstappen, troisième Oscar Piastri.
Ok, d'accord. Ouais, on est à peu près sur le même schéma que la semaine dernière.
Toi, tu veux qu'on s'en bip toute l'année, toi. Qu'on ait qu'un seul podium.
Moi, ça m'arrange. Hein. Si on peut avoir un podium 1 et 2 entre.
Non, Oscar mais alors moi, tu vois, je vais aller encore plus dans ton sens, puisque je pense que ça va être premier doublé de l'année pour les papayes. Et en troisième, en revanche, là, je sais pas, parce que je me dis, attends, est-ce que Max vraiment il va faire le plus rapide derrière les deux tout le temps? J'ai du mal à y croire, mais quoi d'autre? Gasly, cette fois, des points.
Ouais, 8,
Top 8 même. Allez, top 8.
Bon, il y a plein de choses qu'on a envie de voir, rythme. De toute manière. Oui, c'est vrai.
Ouais,
c'est vrai.
Et puis, si, quand même, parce que je pense à ce pauvre Esteban qui, l'année dernière, a une année compliquée dans un tracteur qui, publiquement, se fait pourrir de manière injuste par son écurie, se fait sortir, même larguer, j'ai envie de dire, tellement c'était pas cool dans la forme, et qui, derrière, plein d'espoir, arrive plein d'énergie dans une écurie qui a l'air de faire son meilleur hiver depuis longtemps, et même les essais sont très bons, et là, tu montes dans la voiture, premier Grand Prix, 2 secondes de tout le monde. Bon,
ouais.
Oh, le coup
d'ailleurs,
de barre.
Ils n'ont pas trop compris. Hein.
Ah, le
ils
coup de barre. Alors, j'espère vraiment que c'était un souci circonstanciel et spécifique à Melbourne et que ça va vite être réglé. Apparemment, c'est un gros manque de stabilité dans les virages rapides. J'espère qu'ils vont trouver la clé et que c'était un peu, on va dire, tu sais, comme parfois un truc tout con et tu le trouves et c'est fini. Parce que si c'est vraiment un manque de performance plus conséquent, oh là là, mais pauvre Esteban, on pense fort à toi. Mon pauvre.
On va se régaler en tout cas. Ouais. On va se régaler les gars parce qu'il y a tellement de choses à observer en ce début de saison. Merci beaucoup. Je vous rappelle les horaires, la course à suivre à partir de 8h dimanche matin avec Jean-Luc Roy. Le débrief du Grand Prix de Chine, c'est lundi. Il sera en ligne à 17h30 maintenant. On est ultra réactif. Je vous rappelle que tous les podcasts précédents sont encore en ligne. Si vous voulez écouter nos ingénieurs parler des pronos pour leur saison 2025, le débrief du Grand Prix d'Australie, c'est passé tellement de choses. Franchement, écoutez-le si vous ne l'avez pas fait. On rentre dans l'analyse vraiment de l'échec de Ferrari et de la réussite de Lando Norris. Bref, il y a plein de choses à consommer dans le paddock RMC. N'oubliez pas les 5 petites étoiles. Et on se dit à lundi. Bye bye les gars.
Ciao.
Ciao.
Le paddock RMC.